Radio Okapi.
Le journal Belinda Bousouma.
Okapi.
Global Witness appelle les autorités congolaises à lutter contre les permis artisanaux donnant accès à une exploitation forestière qui viole les lois congolaises. Ceci est contenu dans un rapport que vient de publier cette ONG internationale. Une position du M23 établie à l'entrée de la base des casques bleus onusiens à Kiwanja dans le Nord Kivu. Objectif, empêcher tout mouvement de désertion des combattants M23 pour se rendre à la MONUSCO, allégation rejetée par les responsables de cette rébellion. Arrestation hier à Kinshasa de 4 journalistes sur ordre du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Aubin Minaku les accuse de chantage. L'Union nationale de la presse congolaise, elle, condamne cette arrestation. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis. L'exploitation forestière de l'ombre, c'est le titre d'un nouveau rapport que vient de publier Global Witness. Ce rapport identifie une tendance méconnue d'abus commis au Cameroun, en RDC, au Ghana et au Libéria. Dans ces pays, des permis conçus pour promouvoir les petits exploitants et satisfaire les besoins locaux sont alloués par centaines à des compagnies industrielles, d'après Global Witness. Ces permis de l'ombre, comme les désigne cette ONG internationale, ouvre la porte à une exploitation forestière à une grande échelle, particulièrement lucrative et qui échappe toujours, selon Global Witness, à la surveillance des autorités. Alexandra Pardal, responsable des campagnes européennes à Global Witness, revient ici sur le constat fait par son organisation en RDC. Elle est au téléphone de Samuel Kachak.
Nous avons constaté qu'en RDC, des douzaines de permis de coupe artisanale ont été alloués entre 2010 et 2012, principalement à des compagnies industrielles, violant les lois congolaises d'une dizaine de manières différentes. Donc, en RDC, les exploitants dits artisanaux, mais qui sont en fait des exploitants industriels, continuent de couper et d'exporter du bois sous ces permis en contravention des lois congolaises. Donc, nous appelons aux autorités congolaises de lutter contre cet abus de ces permis artisanaux.
Et puis cette mise en place depuis le 25 avril dernier par le gouvernement du guichet unique de création d'entreprises. Objectif, faciliter la création d'entreprises en RDC. Grâce à ce service, la durée du processus de création passe de 5 mois à 3 jours et le nombre de procédures de 13 à 3, ce qui constitue, selon le directeur général de ce service public, un pas de plus vers l'amélioration de l'environnement des affaires au Congo. Eradi Amissi au micro d'Agathe Pona.
Vous êtes entrepreneur, vous vous adressez au guichet unique et vous apportez donc votre dossier. Et je crois que dès la réception déjà, on vous montre les éléments constitutifs de votre dossier. Votre dossier, il est complet, vous le remettez à la réception et le guichet unique va pouvoir traiter ces dossiers-là. Et on va vous appeler ou vous revenez le troisième jour et vous avez donc tous les papiers. Alors, on va seulement vous demander de pouvoir payer les frais. On va faire une note par les agents de la DGRAD qui sont également incorporé au guichet unique et vous allez faire les paiements et vous revenez. Donc, ce n'est plus question d'errer par-ci, par-là. Le gouvernement a fait un grand effort en réduisant très sensiblement les frais relatifs à la création d'entreprises dans notre pays. Ces frais-là sont passés il n'y a pas longtemps de 3 000 à 850 et aujourd'hui, on en est à 120 $ pour toutes les formalités.
Notons que le guichet unique de création d'entreprises n'est pour le moment représenté qu'à Kinshasa, mais en attendant que des bureaux soient installés en province, les tribunaux de commerce dans les provinces doivent fonctionner désormais comme des guichets uniques. Direction le Nord Kivu. Les responsables du M23 ont établi une position juste à côté de l'entrée principale de la base des casques bleus de la MONUSCO à Kiwanja. Kiwanja est à environ 75 km au nord de Goma, en territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources dans le secteur, l'objectif est d'empêcher toute liberté de mouvement à ceux des combattants de cette rébellion qui tenteraient de déserter le M23 pour se rendre à la MONUSCO. Les responsables du M23 rejettent ces allégations. Gisèle Page.
C'est environ 30 mètres de la base de la MONUSCO que le HOM-23 a installé une position depuis quelques semaines. Cette situation serait due à un intense mouvement de désertion des combattants observé depuis le mois d'avril dans le rang du HOM-23. Dimanche dernier, les combattants positionnés à cet endroit ont tiré sur deux policiers qui voulaient se rendre au casque bleu de la MONUSCO. Aucun de ces policiers n'a été blessé, confirment nos sources. Tous deux ont réussi à accéder à l'intérieur du camp de la MONUSCO. Malgré cette disposition, plus de 10 autres combattants du HOM-23 se sont rendus au courant de cette semaine au casque bleu selon nos sources. Les responsables du HOM-23 démontent ces informations. Pour eux, la position du HOM-23 la plus proche est à quelques 800 mètres de la base des casques bleus. D'autre part, le HOM-23 aurait pris d'autres dispositions en installant depuis environ 2 semaines deux autres barrières à Roubaix et Mounigui sur la route retour au Goma. C'est pour rechercher les combattants en fuite, selon les témoignages des usagers de cette route. Des véhicules sont ainsi soumis à une fouille systématique, précise la même source. Goma, Gisèle Cage, Radio Capi.
Je vous le disais en titre, 4 journalistes arrêtés hier sur ordre du cabinet du président de l'Assemblée nationale ici à Kinshasa. Il s'agit d'Albert Tshibende, Norbert Kondé, Pascal Mulunda et Jenny Avedila. Ils sont respectivement journalistes et éditeurs des journaux Le Monde, Le Réseau, Le Moniteur et Le Futur. L'information a été donnée par le président de l'Assemblée nationale le même jour à l'ouverture de la séance plénière. Aubin Minaku les accuse de chantage. Selon le président de la Chambre basse du Parlement, ils ont menacé de publier des informations qualifiées de compromettantes les concernant. Explication Mimi Ngumba Mulongo.
C'est juste après l'entrée de membres du bureau dans la salle de congrès que le président de la Chambre basse a rendu publique cette affaire. Selon Aubin Minaku, ces journalistes ont contacté ses services depuis plus de 5 jours. Ces hommes des médias se sont encore présentés lundi 29 avril avec des calques de leurs journaux. Ils ont menacé de publier des informations compromettantes. Aubin Minaku.
Le premier article qui devait être publié dans le journal Le Réseau, le président de l'Assemblée nationale prit la main dans le sac. Deuxième article, Aubin Minaku la tombe de l'Assemblée nationale. Journal Point Chaud. Troisième article, Journal Le Monde. Le président Minaku, le plus médiocre des présidents.
Des informations qualifiées de chantage par Aubin Minaku. S'expliquant sur le fait leur reproché, ces journalistes ont déclaré s'être présentés au cabinet du président de l'Assemblée pour vérification des informations en leur possession. C'est à leur sortie qu'ils ont été interpellés par des agents du parquet, selon le journaliste en danger qui donne cette précision. Sans entrer dans le fond de cette affaire, j'aide déplore la rapidité avec laquelle ces journalistes ont été arrêtés et demande que ces personnes puissent bénéficier de leur présomption d'innocence jusqu'à l'aboutissement des enquêtes judiciaires en cours, indique Journaliste en danger dans un communiqué rendu public hier soir.
Pour sa part, l'Union nationale de la presse du Congo condamne l'arrestation de ces 4 journalistes. Son président s'est dit tout simplement indigné, Momad Mwana Sampo.
Je me lève contre cette arrestation. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a le pays qui chemine vers la dépénalisation du délit de presse, ça c'est d'un. De deux, si le cas était avéré, on devait transférer ce cas-là à la structure compétente qui est la commission de discipline qui juge les pairs. C'est ça les dispositions qui nous régissent actuellement. Et puis par ailleurs, quand je sais que l'organe politique où il est secrétaire général avait fait travailler les entreprises de presse en 2006 et ils ne sont pas payés à ce jour, ça c'est une escroquerie avérée, consommée, parce que de 2006 à ce jour, il y a 7 années qui sont passées, mais ce journaliste, bon, il dit qu'il y a eu tentative de escroquerie. Donc celui qui estime qu'il y a eu tentative, mais pourquoi ne pas s'adresser à une institution qui régit la presse, qui est l'UNPC, qui est la commission de discipline, c'est ça que nous regrettons.
Rendons-nous au Kassai occidental. Les évêques demandent l'implication de l'État dans la résolution des conflits autour du pouvoir coutumier. Recommandation formulée le week-end dernier lors des travaux de la conférence épiscopale à Kananga. L'archevêque de Kananga et président de la conférence des évêques du Kassai s'est dit préoccupé par des conflits à répétition qui déchirent les deux Kassai. Selon Mgr Marcel Madila, ces conflits sont dus notamment à la mauvaise gestion des villages par les chefs traditionnels, mais aussi à l'absence de l'autorité de l'État dans ces contrées. Un avis soutenu par la société civile, selon cette dernière, ces conflits occasionnent des pertes en vie humaine, plongent les populations dans la pauvreté et créent des problèmes de gestion de terre à Machala, Mweneditu, Kabinda, Dibaya, Kabeakamwanga, Dimbelenge et autres. Mgr Marcel Madila, archevêque et président de la conférence épiscopale de Kananga, au micro de Francis Kalunga de la radio Dikudietu.
Ce sont souvent des conflits qui sont dues à la manière dont les chefs coutumiers gèrent leurs entités et aussi à l'absence d'autorité de l'État. L'Église, elle est au milieu des gens et avec les conflits qui sont latents ou qui éclatent dans ces milieux-là, ce que l'Église doit faire, c'est continuer à annoncer le message de réconciliation, le message de justice et de continuer à tenir sa place au milieu des gens. Je crois que c'est ça le rôle de l'Église, mais ça ne veut pas dire que la situation générale du pays qui est une situation de misère. Oui, c'est ça qui crée les conflits.
En réaction, le ministre provincial de l'Intérieur au Kasaï Occidental réfute cette allégation. Selon Faustin Kambala, tous ces conflits ont différentes causes. Pour l'instant, a-t-il ajouté, le gouvernement provincial s'épanche sur ce dossier en vue d'une solution durable. Il promet des sanctions sévères aux responsables de l'administration publique impliqués dans les conflits. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.